vous écoutez France Culture et voici Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le groupe État islamique va-t-il disparaître sur le terrain en Syrie alors que cette semaine marque le 8e anniversaire du début de la guerre? Les forces démocratiques syriennes dominées par l'EQUD ont relancé hier leur assaut contre le dernier réduit des combattants de Daesh à l'est du pays.
Et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika a regagné l'Algérie où il fait face à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir.
Une manifestation encore hier de la jeunesse algérienne partout dans le pays, mobilisation aussi à Paris. L'arbitrage qui lui avait octroyé plus de 400 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais avait finalement été annulé pour fraude. Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris.
Et puis la question du jour, ce sera dans une dizaine de minutes. Catherine, les enfants de djihadistes ont-ils droit au retour en France? On posera la question à l'avocat Henri Leclerc.
Alors que la guerre en Syrie entre cette semaine dans sa 9e année, les forces démocratiques syriennes ont repris hier soir l'assaut final contre les derniers combattants de Daesh, retranchés dans le village de Baghouz, situé à l'est du pays, tout près de l'Irak. L'offensive de cette alliance arabo-kurde anti-djihadiste, soutenue par une coalition internationale emmenée par Washington, cette offensive avait été suspendue la semaine dernière pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Baghouz, des civils, mais aussi des combattants djihadistes et leurs familles qui ont accepté de se rendre, des femmes notamment qui ne renoncent pas à soutenir le groupe État islamique. Le reportage à Baghouz d'Aurélien Colli.
Un panache de poussière qui s'élève dans le désert, l'un des derniers camions à sortir des civils de l'enclave de Baghouz. Six femmes, six ombres dans leur niqab noir qui ne laissent même pas leurs yeux apparaître. Et des enfants perdus, apeurés, le plus petit n'a que quelques mois. Il n'y avait plus rien à manger, rien à boire, il n'y a que des bombardements, confie Rawa, syrienne de Homs, qui assume son allégeance à Daesh. Il reste des femmes, mais elles ne veulent pas sortir sans leur mari, à peu près 700, précise-t-elle, avant que des combattants de Kurdes les rassemblent et les fouillent. Dans le groupe, une Européenne qui dit venir de Hollande. C'est terrifiant d'être là-bas, il y a beaucoup de blessés, ça tire en permanence, mais le moral des combattants est bon, explique la femme, dont le mari a été tué il y a quelques jours. Ceux qui sont tués, Allah en fait des martyrs, ajoute-t-elle, convaincue. Quand on lui demande si elle rejoindrait l'État islamique, s'il renaissait un jour, bien sûr, répond-elle du tac au tac. Quant aux exactions des djihadistes, les décapitations et ce genre de choses, moi je n'ai pas eu à les voir, se défend-elle, en excusant cette barbarie par les croisades chrétiennes que l'Occident aurait oubliées.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture à Baghouz, à l'est de la Syrie. Lui avait rejoint Daesh et la Syrie en 2013. Le djihadiste français Mehdine Mouche connaîtra aujourd'hui la peine qui lui est infligée, après avoir été reconnu coupable la semaine dernière des 4 assassinats terroristes perpétrés en mai 2014 au musée juif de Bruxelles. La capitale belge où des représentants de l'Union européenne, associations et policiers se réunissent aujourd'hui pour la 15e journée de commémoration des victimes du terrorisme, alors que le groupe État islamique voit ses prétentions territoriales se réduire à peau de chagrin au Levant. Les attentats en Europe continuent. Une quinzaine d'attaques islamistes ont été commises l'an dernier dans l'UE, dont 3 en France. L'enquête se poursuit ce matin pour comprendre pourquoi le Boeing 787 flambant neuf d'Ethiopian Airlines s'est écrasé hier, au sud d'Addis Abeba, faisant 157 morts. Y a-t-il un lien avec le crash d'un autre Boeing 787 qui avait provoqué la mort de 189 personnes en Indonésie en octobre dernier sur la compagnie Lion Air? Trop tôt pour le dire, mais les deux catastrophes se ressemblent. Un crash quelques minutes seulement après le décollage. Des équipes de Boeing et de l'autorité américaine des transports se rendent aujourd'hui en Éthiopie pour tenter d'élucider les raisons de l'accident. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, Abdelaziz Bouteflika est officiellement rentré à Alger hier soir. Personne n'a vu celui qui, à 82 ans, est toujours diminué par un AVC depuis 2013. Il brigue un 5e mandat présidentiel le mois prochain. Mais hier encore, des milliers de lycéens et d'étudiants ont manifesté en Algérie contre cette nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. 10 000 manifestants également à Paris, place de la République, hier. Le reportage de Mathilde Dehimy.
Ils hésitent entre indifférence, comme Titem.
Ça changera rien. Rien ne peut arrêter un peuple pour qui l'heure est venue de se libérer.
Ou sentiment qu'au contraire, ce retour est peut-être un tournant. Pour Kaïna, en France depuis 10 ans, l'arrivée du président Bouteflika à Alger pose surtout des questions.
Ça va encore attiser la colère derrière tous ces sourires, tous ces chants. Il y a une inquiétude profonde. Est-ce qu'ils vont écouter la rue? Est-ce qu'il va retirer sa candidature? Est-ce que les élections vont être reportées? C'est vraiment le grand point d'interrogation.
Selmiya, crie la foule à Paris et à Alger. Pacifique, mais jusqu'à quand, s'interroge Tahar.
Les 3 premières manifestations, les gens n'ont pas insisté pour aller jusqu'au palais présidentiel. Ce qu'on peut craindre, c'est que son retour puisse pousser les manifestants à aller jusqu'à la présidence. Et là, je pense que la réaction des forces de l'ordre peut être différente, peut-être un peu plus violente.
Une appréhension partagée par Zinedine. Rien ne pourra contenir la colère du peuple si le pouvoir durcit le ton, dit-il.
J'espère qu'il n'y aura pas de mort, c'est tout, parce que c'est bon, on a donné. Ça va se passer très très mal pour eux. On va pas prendre les armes, mais on va y aller jusqu'à eux, jusqu'à qu'ils marcheront sur nos corps. Y compris ici en France. On va tous les dénoncer. Tous leurs appartements, on va les dénoncer.
Renoncer au 5e mandat, disent ces Algériens, ne suffira pas. C'est tout le système politique qu'il faut changer.
Au Royaume-Uni, les eurosceptiques avertissent déjà la première ministre Theresa May. La Chambre des communes lui infligera à nouveau une lourde défaite si elle présente son plan de sortie de l'Union européenne tel qu'il est actuellement. Vote sur le Brexit demain et jeudi à Londres. Report ou non du Brexit, il est toujours prévu le 29 mars prochain. À bout d'argument, Theresa May a proposé de débloquer l'équivalent de 25 milliards d'euros pour sortir de la politique d'austérité, de l'argent pour le système scolaire, la police, des réductions d'impôts, à condition que le Parlement valide l'accord sur le Brexit. Eux réclament des moyens supplémentaires pour le Brexit, justement. Les douaniers poursuivent leur grève du zèle en France, contrôlant de manière plus stricte les voyageurs qui se rendent en Grande-Bretagne. Ils provoquent de nouveaux retards de trains Eurostar Gare du Nord à Paris ce matin. Les douaniers seront reçus demain par leur ministre Gérald Darmanin. 7h07 sur France Culture, plus de 10 ans après l'arbitrage frauduleux qui avait accordé à Bernard Tapie 404 millions d'euros pour régler son litige avec l'ex-banque publique Crédit Lyonnais. Le tribunal correctionnel de Paris juge enfin ce volet arbitrage du dossier. Une affaire qualifiée d'escroquerie et de détournement de fonds publics, si prévenu, Bernard Tapie, son avocat historique Maurice Lantourne, et l'un des arbitres, Pierre Estoupe, soupçonné d'avoir été au cœur de la fraude. L'actuel patron d'Orange, Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de la ministre de l'économie, Christine Lagarde, sera lui aussi sur le banc des prévenus, poursuivi avec 2 autres fonctionnaires pour complicité. Mais que peut-on attendre de ce procès pénal après les multiples décisions déjà rendues par la justice? L'analyse de Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne et spécialiste du droit de l'arbitrage.
Paradoxalement, je dirais que Bernard Tapie lui-même ne risque quasiment plus rien dans cette affaire. Vous savez, une condamnation pénale, c'est quoi? C'est de l'incarcération et une pénalité financière. Pénalité financière maximum ici, c'est 350 000 euros, c'est-à-dire que ça peut paraître beaucoup, mais c'est dérisoire par rapport aux 525 millions d'euros que Bernard Tapie doit déjà. Et quant à la condamnation d'incarcération, elle est peu probable pour quelqu'un qui est malade. Donc c'est pas lui qui finalement est véritablement en risque dans cette affaire, c'est certain nombre des autres protagonistes.
Cela dit, est-ce que ce sera la fin de ce marathon judiciaire? L'arbitrage a déjà été déclaré frauduleux et les sommes pour autant n'ont pas été restituées.
Les sommes n'ont pas été restituées, mais une partie du patrimoine de Bernard Tapie est saisie. Et il ne peut plus en disposer et les sommes seront forcément restituées à terme. Vous savez qu'il y a une procédure parallèle qui a été montée devant le tribunal de commerce pour tenter une mesure de sauvegarde sur le patrimoine de Bernard Tapie qui a échoué. Donc tout ça prend du temps, mais tout ça finit toujours par aboutir. Il n'y a pas, je pense, de faillite du système judiciaire. Il y a au contraire un système judiciaire qui est venu compenser la faillite d'une escroquerie, enfin en tout cas d'une fraude à l'arbitrage. Et c'était absolument nécessaire.
Le professeur de droit Thomas Clé, qui enseigne à la Sorbonne, il était interrogé par Florence Turme. Bruno Le Maire réunit aujourd'hui à Bercy les principaux acteurs de la filière diesel en France. Constructeurs, sous-traitants et partenaires sociaux sont conviés pour préparer un plan concerté d'accompagnement du secteur sur fond de repli des ventes. Les immatriculations de diesel sont tombées à 36% en France. C'est 2 fois moins qu'il y a 7 ans. Les associations environnementales craignent de voir le diesel être reverdi et elle regrette l'absence des acteurs de l'environnement et de la santé aujourd'hui à la réunion à Bercy. Autre inquiétude du côté des sites industriels les plus dépendants du diesel comme à l'usine Bosch de Rodez dans l'Aveyron. Le reportage de Fabien Cazot.
Depuis janvier, l'usine Bosch de Rodez tourne au ralenti. La production est interrompue 4 à 5 jours par mois. L'arrêt de la fabrication d'injecteurs diesel est programmé pour avril. En attendant de savoir si d'autres commandes prendront le relais, le délégué CGT de l'usine, Yannick Anglarès, se dit inquiet. 350 salariés sur les 1500 que compte l'usine en tout travaillent sur cette ligne de montage.
Il y a une problématique d'activité sur 350 salariés environ, mais si le marché du diesel continue à s'effondrer, ça peut aller jusqu'à une fermeture du site. Maintenant, nous avons des directions, comme c'est le cas dans beaucoup d'usines en France et dans le monde, qui ne sont que des exécutants, ne sont plus des décideurs. Les décideurs sont en Allemagne. Et on ne sent pas pour l'instant une forte volonté de l'Allemagne de sauver le site Rodez.
Les syndicats, comme la direction d'ailleurs et les élus locaux, dénoncent ce qu'ils appellent le diesel bashing. Les motorisations ont fait de gros progrès, argumentent-ils, notamment en termes de performance écologique. Il n'empêche, la direction de l'usine est déjà partie à la recherche de nouveaux clients. 14 millions d'euros ont été investis pour permettre au site de fabriquer une plus grande variété de pièces détachées pour l'automobile, mais aussi l'aéronautique ou même l'horlogerie.
La transition écologique, l'un des quatre thèmes retenus par l'exécutif dans le cadre du grand débat national. Une concertation qui touche à sa fin. Dernière semaine de contribution pour tenter, comme l'espère le gouvernement, de répondre à la crise des gilets jaunes. Quelques réunions locales doivent encore se tenir ces prochains jours. Aujourd'hui et demain, place Rosalie Lafarge aux conférences nationales thématiques.
Il y en aura quatre, une par thème. Aujourd'hui, la conférence transition écologique au ministère du même nom et la conférence démocratie et citoyenneté au ministère de la Justice. Mercredi, la fiscalité et les dépenses publiques seront au menu de Bercy quand on parlera d'organisation de l'État et des services publics au ministère de la cohésion des territoires. Ces quatre grandes réunions, le gouvernement les voit comme l'occasion de faire travailler ensemble les associations, les organisations syndicales et les représentants des élus. Ils doivent se pencher sur les contributions et les propositions des participants au grand débat national pour débroussailler un peu le terrain, faire émerger des choses. L'idée, c'est de fournir une base de travail aux conférences citoyennes régionales. Ça, c'est l'étape d'après. Des ateliers prévus les 15, 16 et 22-23 mars qui réuniront chacun une centaine de citoyens tirés au sort, chargés de livrer leur diagnostic et d'élaborer collectivement des solutions. À côté de cela, chacun peut continuer à faire ses propositions en ligne. La barre du million de contributions a déjà bien été dépassée et l'Institut OpinionWay s'occupe de traiter cette énorme masse de données, pendant que la Bibliothèque nationale de France numérise les 15 000 cahiers citoyens qui lui ont été remis.
Le temps de ce lundi 11 mars, instable sur le nord-est, marqué par un vent très fort sur les Alpes et la Corse. Les températures sont en baisse ce matin, comprises entre 2 et 6 degrés en général dans l'intérieur des terres. De petites gelées parfois dans le nord-est.